Radio Spirale. En mai 2012, Jean-Baptiste Jean-Gère Villemaire, René Provost ainsi que Jocelyn Coulon étaient réunis pour une table ronde autour de cette question « Doit-on intervenir militairement au nom des droits humains? » Devant l'imminence d'un massacre, les concepts de guerre juste et de droits de l'homme se mêlent aux questions stratégiques et aux victimes civiles qui seront parfois inévitables. La table ronde était animée par Ryoa Chung et se tenait à la librairie Olivieri.
Soirée. Je me présente d'abord. Alors, mon nom est Ryoa Chung, professeure agrégée au département de philosophie de l'Université de Montréal. Et en fait, ici, je représente, si vous voulez, l'ensemble des collègues du Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Nous sommes les fiers co-sponsors de cet événement qui consiste à célébrer en fait le lancement de deux livres de deux membres, c'est-à-dire un membre actuel et un ex-membre du CREUM, du Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Et nous aurons donc le plaisir tout à l'heure, après la table ronde, de célébrer le lancement du livre de Aude Bandini, de laquelle auteur je glisserai un mot tout à l'heure lorsque je vais la présenter. Et pour commencer, en fait, on a pensé que pour souligner donc la parution du livre de Jean-Baptiste Jean-Jeanne Villemaire, La guerre au nom de l'humanité, tuer ou laisser mourir, tous les deux livres qui paraissent chez PUF et qui sont arrivés ici maintenant au Québec, on a pensé qu'il serait une bonne idée, en fait, à la lumière de certaines tragédies qui se déploient dans l'actualité internationale, qu'il serait une bonne idée, en fait, de revenir un moment pour prendre une pause réflexive au sujet de l'intervention humanitaire. Et c'est la raison pour laquelle, donc, nous organisons cette table ronde avant de passer comme tel aux festivités du lancement des deux livres tout à l'heure à 8h. Alors, donc, j'ai le grand bonheur de pouvoir présider également cette table ronde, donc. Alors, je vais présenter les invités. Je voudrais simplement signaler que c'est d'autant plus un plaisir personnel pour moi que j'ai été une des co-directrices, donc, de Jean-Baptiste Jean-Jeanne Villemaire. Et le livre, donc, La guerre au nom de l'humanité, est tiré, en fait, de la thèse de doctorat qui a reçu plusieurs prix, dont notamment le prix de la meilleure thèse de doctorat du Cirium, le prix de la meilleure thèse FESP de l'Université de Montréal, ainsi que le prix meilleure thèse des chancelleries de Paris. Et donc, c'est un grand bonheur pour moi d'avoir pu contribuer, un tant soit peu, dans la formation très autodidacte, par ailleurs, de Jean-Baptiste tout au long de ses recherches doctorales. Alors, donc, il est déjà plutôt connu, mais je vais quand même, par souci de protocole auquel je tiens, vous présenter les invités de manière suffisante. Alors, donc, Jean-Baptiste est de formation interdisciplinaire, à la fois philosophe, juriste et politologue, et donc, né en France, mais nous avons le bonheur de pouvoir l'accueillir ici, puisqu'il complète, en fait, il effectue son postdoctorat à titre de boursier Banting au Center for Human Rights and Legal Pluralism de la Faculté de droit de l'Université McGill. Et présentement, ses recherches postdoctorales portent notamment sur les robots militaires autonomes, mais tout au long de sa formation universitaire, il est passé par plusieurs universités, dont Sorbonne, Oxford, Université de Montréal, Université McGill, un passage également à l'Université à Yale, de même qu'à l'Université d'Amsterdam. Voilà, donc il a beaucoup voyagé, Jean-Baptiste, tout au long de ses études et de sa formation. Et il est passé par beaucoup d'autres endroits, mais là, ça serait trop long, alors je vais m'arrêter ici. Alors, la thèse de doctorat, en fait, était sous une co-tutelle avec Monique Cantos-Sperber, qui à l'époque était la directrice de l'École normale supérieure à Paris. Et c'est une co-tutelle école des hautes études en sciences sociales et Université de Montréal. Il a été également enseignant à l'Université de Montréal, attaché à l'ambassade de France au Turkménistan. Je le signale tout simplement parce que dans sa grande fiche de publication, vous aurez peut-être sans doute remarqué notamment son livre, son photoreportage sur le Turkménistan, où il est allé à titre justement attaché d'ambassade de France dans ce pays-là. Également, il est connu pour avoir d'une certaine façon lancé dans le monde francophone le débat sur l'éthique animale. Il a publié également un livre qui est également paru aux Presses universitaires de France sur l'éthique animale. Plusieurs autres également sont parus chez Vrin et ensuite également aussi chez PUF. Il a écrit donc tant d'ouvrages, mais quand même je signale pour, en ce qui concerne le domaine de l'éthique des relations internationales, un livre que par ailleurs j'aime beaucoup, qui a été publié aux presses de Sciences Po, « Pas de paix sans justice, le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflits armés », de même qu'un autre livre très remarquable qui est paru aux presses universitaires de France, « Réparer l'irréparable, les réparations victimes devant la Cour pénale internationale », avec une préface d'Antoine Garapon. Alors, nous aurons l'occasion de l'entendre présenter un peu l'ensemble de son livre tout à l'heure, mais il sera donc suivi par les commentaires de deux invités prestigieux qu'on a le bonheur également d'accueillir et qui sont des sommités sur la question précise de l'intervention humanitaire. Alors, vous reconnaîtrez donc à ma droite M. Justin Coulon, qui est chercheur invité au CIRIUM depuis septembre 2005. Il est également directeur du réseau francophone de recherche sur les opérations de paix du CIRIUM. Il a été connu également pour toutes ses contributions dans le domaine de l'actualité internationale, aussi bien à la presse qu'au Devoir. Et il a été entre 1999 et 2003 le directeur du campus de Montréal du Centre Pearson pour le maintien de la paix, dont on a beaucoup entendu parler également. Et pour ce qui est donc de René Provost, René Provost est professeur à la faculté de droit de l'Université McGill. Il est également le founding director, le directeur fondateur donc du Center for Human Rights and Legal Pluralism qui a été créé à l'automne 2005, diplômé de l'Université d'Oxford. Il est donc un spécialiste dans le domaine du droit international humanitaire, les droits de l'homme et le droit international pénal. Voilà. Donc, il est également l'auteur d'un ouvrage, International Human Rights and Humanitarian Law, qui a été publié à Cambridge University Press en 2002. Également l'auteur de plusieurs autres ouvrages. Mais je vais m'arrêter ici parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps. Et donc, la formule que je vous propose, c'est d'entendre Jean-Baptiste nous parler peut-être une quinzaine de minutes. Ensuite, on entendra les commentaires de Justin Coulon, de René Provost. Et ensuite, la discussion sera ouverte également avec le public.
Merci Rioa, merci de votre présence. Ce que je vais faire, c'est parler quelques minutes du livre. C'est pas très intéressant de passer plus de temps là-dessus, mais c'est pour peut-être vous éviter d'avoir à le lire parce qu'il est long et donc pourra essayer d'avoir un aperçu du contenu. Et puis après, plutôt lancer la discussion, le débat sur des questions d'actualité, c'est-à-dire notamment la Syrie et en particulier dans une comparaison avec la Libye qu'on fait souvent. Et a-t-on raison ou pas de la faire ? Donc ce que j'ai tenté de faire dans ce livre, c'est pas défendre une nouvelle thèse, parce que, ayant justement étudié l'histoire des interventions humanitaires et l'histoire de la doctrine autant que de la pratique, je suis assez rapidement arrivé à la conclusion que tout avait déjà été dit, et depuis bien plus longtemps qu'on le pense, notamment au XIXe siècle, une période extrêmement riche avec des débats très précis où déjà les notions de droit d'ingérence étaient là. Donc c'est pas Bernard Kouchner et Mario Bettati qui les ont créés en 1987, contrairement à la légende française. Donc c'est pas de défendre une thèse, c'est plutôt d'essayer de mieux comprendre, et le seul apport que je pouvais avoir, c'était l'interdisciplinarité. C'est donc une contribution essentiellement formelle qui vise à rassembler et faire se croiser plusieurs approches qui sont des approches historiques, juridiques, politiques et éthiques. Puisque le grand problème, c'est un problème qu'on rencontre très souvent dans les relations internationales, c'est cette division par discipline et le fait que ces disciplines ne communiquent pas ou pas assez entre elles. Ça pose même des problèmes de compréhension, puisque souvent le vocabulaire n'est pas le même, ou plutôt les mots semblent être les mêmes, mais la signification n'est pas la même selon que vous parlez à un juriste, à un politologue, à un philosophe, etc. Et je suis intimement convaincu que la seule manière de bien comprendre les phénomènes internationaux est d'avoir un minimum d'interdisciplinarité, c'est pour ça que j'y tenais. C'est aussi interculturel. D'une certaine manière, parce que bon, je suis français, donc forcément j'ai été nourri pendant longtemps de ce que j'appelle la mythologie française du droit d'ingérence, mais en même temps j'ai fait quand même l'essentiel de ma formation doctorale et même un petit peu avant à l'étranger et dans le monde anglophone. Et donc là on a une autre tradition, celle de l'intervention humanitaire. Et les Américains sont autant persuadés de l'avoir inventé avec récemment Clinton, mais plus anciennement Wilson, que les Français le sont de l'avoir inventé avec Kouchner, et les deux ne se parlent pas. Donc l'intérêt était aussi dans cette approche interculturelle de pouvoir croiser ces deux corpus, qui sont des corpus en réalité très différents. L'introduction du livre est assez substantielle et c'est la théorie des relations internationales. Je ne vais pas développer ce point, il est plus technique. Simplement, mon approche est une approche réaliste et j'aurai l'occasion peut-être de montrer la différence entre cette approche-là et d'autres plus tard ou dans les débats. Je commence par l'histoire et par le droit parce que justement l'approche réaliste, à mon sens, est contextualiste. C'est-à-dire qu'on est forcément obligé de partir de ce qui est avant de se poser la question de ce qui doit être. Donc je ne commence pas déjà à parler abstraitement de la guerre juste, je veux d'abord savoir l'histoire de l'intervention et quel est le cadre juridique. Donc ça, ce sont les deux premiers chapitres. Ce qu'il faut en retenir essentiellement, c'est que l'intervention n'est pas un phénomène récent, et un phénomène qui est en réalité constant, universel, et aussi longtemps qu'on puisse, aussi loin qu'on puisse remonter dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des guerres, il y a toujours eu des guerres justifiées par des raisons humanitaires. Parce que l'intervention dont on parle ici, ce qu'on appelle l'intervention humanitaire, est essentiellement un discours. C'est un mode de justification d'une manière d'intervenir. Quand on intervient par la force, vous pouvez justifier votre intervention de différentes manières. Si vous la justifiez par des raisons humanitaires, vous êtes dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'intervention humanitaire. Et ça, on l'a toujours fait en réalité, sauf peut-être dans l'Antiquité occidentale, qui était différente de ce point de vue-là par rapport aux Chinois, par exemple. Mais je ne rentrerai pas dans le détail. Le chapitre juridique, évidemment, il a le point de départ que l'intervention humanitaire unilatérale, c'est-à-dire sans le Conseil de sécurité, est illégale. Et il examine les différentes manières de contourner cette prohibition pour arriver à la conclusion que ça reste illégal, c'est-à-dire qu'il n'est pas juridiquement possible de le défendre à mon avis, mais certains le font, et que la seule manière c'est de sortir du juridique avec la formule illégal mais moral ou illégal mais légitime, que les juristes eux-mêmes ont formé après le Kosovo pour pouvoir justifier cette sortie du droit, puisqu'on s'est retrouvé face à une sorte d'aporie juridique. Ensuite, les chapitres suivants sont développés, on entre dans le politique en passant par les médias et en reprenant les doctrines classiques de la guerre juste, c'est-à-dire autorité légitime, cause juste, bonne intention, qui est un critère un peu particulier pour moi parce que je l'écarte, autrement dit, c'est en ça aussi que c'est une position réaliste. Je pars du principe qu'on ne peut pas prouver la bonne intention. C'est très difficile de prouver même la mauvaise intention, comme l'intention génocidaire. Par exemple, la commission qui était présidée par Kasese en 2005 au Darfour n'a pas réussi à l'approuver. C'est la raison pour laquelle ils ont conclu que ce n'était pas un génocide. De la même manière, il est très difficile, voire impossible, à mon avis, de prouver l'intention humanitaire, et on ne s'en sort pas avec la pirouette qui consiste à dire on peut avoir une hiérarchie des intentions, c'est-à-dire, ok, l'humanitaire n'est peut-être pas votre seule raison, mais c'est certainement la première. Je pense qu'on ne peut pas non plus le démontrer, donc le critère de la bonne intention est le seul que j'écarte. Après, dernier recours, proportionnalité. Donc voilà pour ce qui est du livre. Pour la question de l'actualité, c'est même très actuel parce que aujourd'hui, ce matin, vous avez Bernard-Henri Lévy, que vous connaissez peut-être, qui a publié, grâce à sa force de frappe médiatique exceptionnelle, un papier, le même, dans plusieurs langues, dans plusieurs journaux, qui est une lettre ouverte à François Hollande, qui est notre nouveau président, et qui lui demande d'intervenir militairement en Syrie. C'est une position en réalité assez minoritaire, et voilà ce que dit notamment BHL, je cite, « La France fera-t-elle, c'est la question qu'il pose directement à Hollande, la France fera-t-elle pour Oula et Homs, Oula où s'est déroulé le massacre le week-end dernier dont tout le monde a parlé, ce qu'elle a fait pour Benghazi et Misrata ?» Donc vraiment basé sur cet argument du deux poids deux mesures et qui révèle ce qu'on a aussi appelé le problème de la sélectivité. C'est à mon avis un faux problème, et ça c'est aussi une position réaliste que de le dire, et dans ce cas-là la position de BHL me semble extrêmement naïve. Un faux problème pourquoi? Parce que ça présuppose une sorte de principe de cohérence qui flotterait donc au-dessus de nous, je ne sais pas comment, raccroché à quoi, et qui présupposerait qu'on devrait intervenir soit partout, soit nulle part. Il faut être absolument cohérent. Si vous êtes allé en Libye, comme les exactions en Syrie sont à peu près similaires, on devrait aller en Syrie, point. Or, ce principe de cohérence, non seulement je ne le vois pas, mais je le trouve même dangereux, tout à fait imprudent, parce qu'il s'il vous commande d'intervenir soit partout, soit nulle part, intervenir partout où on sait que ce n'est pas possible, et pour des raisons tout à fait prudentielles, vous n'allez pas... On nous demande aujourd'hui d'intervenir contre la Syrie, mais est-ce que BHL demanderait d'intervenir contre la Russie pour la Tchétchénie ou contre la Chine pour le Tibet? Non, il ne le ferait pas. Pour quelle raison? Parce qu'il sait très bien que le coût d'une intervention serait, de cette intervention-là, de ces interventions-là, serait supérieur aux bénéfices escomptés. Eh bien, c'est exactement le même raisonnement, c'est-à-dire un raisonnement conséquentialiste qui s'intéresse aux conséquences et non pas aux principes, qui me fait dire que intervenir en Syrie aujourd'hui serait problématique. Autant on avait certaines raisons d'intervenir en Libye, autant c'est des raisons qu'on n'a pas d'intervenir en Syrie. J'y viendrai dans un instant. Donc, intervenir partout est totalement imprudent, irréaliste, et en réalité personne ne le veut, même pas BHL. Intervenir nulle part, ça voudrait dire qu'il faudrait laisser mourir certaines victimes au motif qu'on ne peut pas les sauver toutes. Et on trouverait ça aberrant, même dans notre vie quotidienne. C'est pas parce que vous pouvez rien faire dans certaines situations que vous devez vous retenir d'agir pour résoudre les problèmes qui peuvent être résolus. Donc c'est en réalité au cas par cas qu'on doit traiter en fonction des conséquences probables de votre action, et c'est pas en respectant un principe qui serait intervenir partout ou intervenir nulle part. Donc ceci étant dit, pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas en Syrie à l'heure actuelle? Déjà, il faut rappeler que les États n'interviennent que s'ils ont un intérêt à le faire, et là encore, c'est un axiome réaliste, et qu'on avait un intérêt, même des intérêts à intervenir en Libye, qu'on n'a pas en Syrie. On peut comparer à ce titre les discours, c'est intéressant, de Obama, Cameron et Sarkozy dans leur motivation pour intervenir en Libye. Ça nous dit des choses sur l'identité que ces pays se donnent. Obama et Cameron ont dévoilé tout un faisceau de raisons d'intervenir en Libye. D'abord, en premier lieu, ils le disent explicitement et dans ces termes, des raisons d'intérêt national, des raisons égoïstes. On parle de raisons sécuritaires, notamment pour les Anglais. Au Royaume-Uni, on a beaucoup parlé de Lockerbie. On a rappelé qu'il y avait un risque terroriste à laisser Kadhafi au pouvoir. Et eux, ils en ont fait les frais. On a parlé du pétrole, pas pour se l'approprier, on l'a pas dit en ces termes, mais plus réguler les flux, etc. Et on a dit, il y a aussi la raison humanitaire. On intervient aussi pour empêcher un massacre sur Benghazi. Donc la raison humanitaire était une raison parmi d'autres. Ça me semble relativement honnête parce que c'est réellement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ces États-là ont plusieurs motivations, et là, plusieurs motivations sont données. En France, on a donné une seule motivation, qui est celle d'intervenir pour les droits de l'homme. C'est le fameux droit de l'hommisme français, empêcher un massacre sur Benghazi en tirant la couverture à soi, en faisant croire qu'on s'appuyait là sur le droit d'ingérence français ou la responsabilité de protéger, dont on a beaucoup dit que la résolution 1973 qui autorisait l'intervention en Libye était le baptême du feu et l'invoquait, alors qu'en réalité, quand on regarde la 1973, il n'est pas question dans le texte de responsabilité de protéger, ou alors seulement la responsabilité interne du gouvernement libyen de protéger sa propre population, qui là n'est absolument rien de nouveau puisque c'était déjà le cas dans la Convention contre le génocide de 1948, et pas du tout de la responsabilité externe qui serait comme une obligation plus ou moins contraignante de ce qu'on appelle la communauté internationale d'intervenir à titre subsidiaire. Donc, alors que tout le monde savait très bien, à la même époque en France, que Sarkozy avait en réalité des raisons non seulement qui relevaient de l'intérêt national, mais je dirais même de l'intérêt politique et personnel d'intervenir en Libye pour faire oublier les relations passées avec Kadhafi depuis sa venue à Paris en 2007, pour faire oublier les propositions de Michel Alliot-Marie d'aide à la Tunisie, etc. On avait complètement loupé l'Égypte et la Tunisie, il ne fallait pas se louper sur la Libye une fois que le point de non-retour était franchi. Donc ça, ce n'était pas très, très habile. Mais pourquoi, sur le fond, n'intervient-on pas en Syrie et est-on intervenu en Libye? Je vois trois raisons de fond qui sont des raisons prudentielles, c'est-à-dire qu'elles n'ont absolument rien à voir avec, le légalisme qui est l'excuse officielle. On n'intervient pas parce que les Russes et les Chinois, mais on en parle moins, bloqueraient en réalité une autorisation du Conseil de sécurité, et c'est ça qui nous empêche d'intervenir. Je pense très sincèrement que si demain les Russes, ça n'arrivera pas, mais par hypothèse, si demain les Russes nous disent « Ok, allons-y », personne ne voudra y aller pour autant, parce qu'on a des raisons complètement indépendantes de ne pas vouloir y aller. Ces raisons sont qu'en Libye, on avait une opposition qui était forte, et parce qu'elle exerçait un contrôle effectif sur la moitié du territoire. On avait une armée libyenne qui était relativement faible, et on avait un risque d'escalade régionale qui était faible également, puisque la Libye était isolée en Afrique du Nord. On peut voir, constater maintenant, j'en parlais tout à l'heure avec Jocelyn, qu'il y a des répercussions de la guerre en Libye sur des pays environnants, évidemment. Mais ce n'est pas dans les mêmes proportions que aurait une guerre en Syrie aujourd'hui, puisque la Syrie est là dans une, au cœur d'une poudrière géopolitique, et là ce ne serait pas des répercussions à long terme et à de faible intensité, ce serait une déflagration immédiate, et on ne parlerait pas du tout de la même chose. Il y a évidemment le soutien de la Russie, on en parle, mais aussi de l'Iran, il y a la question kurde, il y a le Liban qui est complètement... lié à la Syrie, Israël, Palestine, etc. Donc la situation géopolitique n'est pas la même. Ensuite, si on reprend les deux premiers points, l'opposition en Syrie, elle est faible, elle est courageuse, mais elle est faible, et elle ne contrôle pas une partie du territoire, il n'y a pas de contrôle effectif sur le territoire. Et deuxièmement, l'armée syrienne est beaucoup plus forte. Et d'un point de vue strictement matériel, l'OTAN a déjà atteint certaines limites, en réalité, dans l'intervention en Libye, une fois que les Américains ont réduit leur participation. Est-ce qu'on a vraiment les moyens d'une guerre en Syrie? Question subsidiaire, qui peut paraître indécente. Donc les contextes, les circonstances ne sont pas les mêmes, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas arriver raisonnablement à la même conclusion qu'il faut absolument intervenir en Syrie parce qu'on l'a fait en Libye. Donc, alors que faire? Que faire? Je terminerai là-dessus. Poursuivre les efforts diplomatiques, je ne crois pas vraiment dans la mission Annan. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'elle puisse déboucher sur autre chose qu'une déclaration supplémentaire. À mon avis, la solution est russe, dans le sens où si Assad se permet aujourd'hui de massacrer, alors même qu'il a des observateurs onusiens sur son territoire, et même Annan lui-même, c'est parce qu'il sait qu'il est soutenu par Poutine, qui livre des armes, et ça tout le monde le sait, au régime syrien. Donc il faut convaincre Poutine de ne plus soutenir Assad, et pour le faire, il n'y a pas dissolution. Un auteur réaliste américain qui s'appelle Stephen Valt, qui a proposé de manière intéressante, sans doute, que... il faut donner aux Russes quelque chose en contrepartie, et ça pourrait être pour les Américains de reculer sur la défense antimissile européenne. Donc là, c'est un jeu de négociation. Autrement dit, si vraiment les Américains le voulaient, ils auraient peut-être les moyens de convaincre les Russes de ne plus soutenir Assad. Et ce serait ça l'objectif pour que les choses changent. L'obtention de corridors humanitaires, en vérité, c'est un faux problème. Parce que les corridors humanitaires, soit ils sont militarisés, soit ils ne le sont pas. S'ils ne le sont pas, ça implique le consentement du gouvernement, ce qui ne se passera pas. S'ils le sont, ça revient à intervenir militairement, en réalité, parce que ça va dégénérer. Donc les corridors humanitaires, ce n'est pas une solution. Et soutenir l'opposition, j'y suis favorable également, de manière clandestine, y compris en la formant et en l'armant. Et c'est ce que fait le Qatar, déjà. Alors là, on a tout de suite toute une série d'objections qui viennent à cette dernière proposition. La première consiste à dire « mais ça va dégénérer en guerre civile ». C'est ce que dit Laurent Fabius, par exemple, ministre français des Affaires étrangères, dans une interview récente. Ça va dégénérer en guerre civile si on fait ça. Mais n'est-ce pas déjà le cas, une guerre civile? Si on part du principe que la Syrie est déjà dans un état de guerre civile et que la seule issue possible, c'est le départ d'Assad, la question n'est plus que de savoir quand et à quel prix. Et de ce point de vue, soutenir et former l'opposition n'est pas forcément idiot. Ensuite, on dit, on ne sait pas très bien qui est cette opposition. Est-ce que ce n'est pas dangereux de la soutenir et de la former? On ne sait pas ce qu'on va avoir après. Ce ne sera peut-être pas mieux qu'Assad. C'est vrai, il faut faire, c'est le travail du renseignement, tout un effort de pour mieux connaître l'opposition qui est fragmentée en réalité, et surtout essayer de la rassembler. Mais je pense que cet argument qui consiste à dire « attention, ça peut être pas mieux », il présuppose qu'on va passer du jour au lendemain d'une dictature à de la démocratie. C'est pas comme ça que ça va se passer, ce sera forcément encore quelque chose de contestable après. On le voit bien en Libye. La question, c'est pas d'imaginer que demain il va y avoir la démocratie, comme dit Védrine, comme du café instantané. C'est simplement, est-ce que ce sera vraiment pire? Et même si c'était pareil, il y a une différence notable, c'est qu'on aura donné au peuple syrien la conviction qu'il a pu une fois se débarrasser d'un dictateur. Ça lui permettra d'avoir confiance qu'il peut le faire une seconde fois. C'est ce qu'on peut appeler la pression de la place Tahrir, ce qui se passe en Égypte, qui maintient encore la pression sur les militaires, malgré tout. Donc, ça peut se mettre 2 fois, 3 fois, 4 fois, faire une transition démocratique, évidemment 5 ans, 10 ans, mais c'est pas un argument pour dire qu'il faut pas commencer, lancer le mouvement. Je m'arrête là pour qu'on puisse discuter avec les autres.
Très bien, Jessin.
Alors, merci, merci de m'avoir invité à cette causerie. Je veux dire quelques mots d'abord sur le livre et ensuite prendre un aspect du livre, évidemment, qui nous intéresse et qui m'intéresse au premier chef, et le développer. Alors, moi, je ne suis pas juriste, je suis un observateur, un commentateur sur la politique internationale. Bien sûr, j'ai développé une spécialisation dans les opérations de maintien de la paix. Les gens me connaissent surtout pour avoir écrit sur ces questions. Bien entendu, l'intervention humanitaire, militaire ou autre est liée à ces opérations de maintien de la paix. Donc, ce qui est intéressant dans le livre de Jean-Baptiste, c'est d'abord le débat contradictoire entre les différentes thèses. Jean-Baptiste aurait pu se cantonner uniquement à défendre son point de vue, parce qu'il a un point de vue, et il le dit vers la fin du livre, il est en faveur d'une intervention, mais elle doit reposer sur un certain nombre de critères, et cette intervention est exceptionnelle. Ça veut donc dire qu'on doit réfléchir avant d'intervenir. Mais Jean-Baptiste ne se cantonne pas uniquement à défendre sa thèse, il a le mérite de nous offrir et de nous expliquer les thèses des autres, soit pour les mettre en contradiction, soit même pour lui permettre soit d'y adhérer ou de les contester. Et ça facilite grandement la clarification du débat et des termes du débat, parce que depuis une vingtaine d'années, toute la question de l'intervention humanitaire ou de l'intervention militaire est un véritable maquis conceptuel. Et j'ai noté très rapidement une dizaine de concepts finalement dans le livre, que ce soit le droit d'ingérence, le devoir d'ingérence, l'intervention d'humanité, l'intervention humanitaire, l'action humanitaire, la responsabilité de protéger, être prêt à faire quelque chose et pas la même chose que d'être obligé à faire quelque chose, etc. Donc face à ces concepts que l'on voit régulièrement dans les médias, mais qui ne sont pas uniquement des fabrications de médias, mais aussi de responsables politiques et parfois même de juristes, et tu en cites de nombreux dans ce livre, évidemment, l'opinion publique se demande, mais de quoi parle-t-on au juste? Et je pense que l'apport de Jean-Baptiste dans un livre de 500 pages, quand même, c'est de clarifier ces concepts. Et donc, ça nous permet de nous les approprier et surtout pour les chercheurs et même pour les journalistes de réfléchir lorsqu'ils abordent ces concepts-là avant de les utiliser. Alors moi, ma formation est surtout une formation de journaliste et ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est évidemment les pages, le chapitre qui porte sur les médias. Et je crois que les gens... vous le savez, se font une idée de l'influence que peuvent avoir les médias dans une crise. On le voit actuellement au Québec, les gens peuvent dire les médias sont pro-gouvernementaux ou anti-gouvernementaux. Puis finalement, quand on essaie de réconcilier tout ce beau monde, on voit que c'est impossible, puisque chacun a sa lecture des médias. Ça dépend même de la page qu'il lit dans le journal. Est-ce un chroniqueur, un éditorialiste, un reporter ou autre. Et c'est très difficile de trancher. Et même si on arrivait à trancher, est-ce qu'on pourrait dire que les médias influencent ou ont de l'influence dans le conflit étudiant? Alors, je sors immédiatement du conflit étudiant, puisque il y a dans la salle des carrés rouges, des carrés autres, d'autres sans carrés, et je me porte sur la scène internationale, une chose que je connais un peu plus. J'ai été pendant 20 ans journaliste aux affaires internationales, donc directeur de l'information internationale au Devoir. J'ai sillonné le monde entier, bien sûr. J'ai étudié ces questions-là et j'en arrive à la conclusion que, en matière de politique internationale, les médias n'ont absolument pas d'influence. Je sais que Jean-Baptiste, lui, est plutôt de l'école que les médias ont une faible influence et qu'il y a peut-être un effet CNN. Moi, je crois qu'il n'y en a pas. À travers certains exemples, je vais essayer de le démontrer. Je crois que les premières prémices de cette histoire de l'influence des médias sur les événements internationaux arrivent, et là je suis bien obligé de choisir un événement, lors de la guerre entre les États-Unis et l'Espagne au sujet de Cuba. Et ça se déroule 1895-1898. Et il existe un personnage qui est très connu, Randolph Hearst, qui est le magnat de la presse américaine à l'époque, fin du 19e, début du 20e siècle, et qui contrôle une partie des médias américains. Et bien entendu, la crise cubaine intéresse les médias, mais aussi une partie de l'opinion publique et une partie des politiciens. Et Randolph Hearst, évidemment, envoie des journalistes et des photographes sur le lieu du drame, à La Havane, mais les choses n'avancent pas. Comme dans toute guerre ou comme dans toute confrontation, parfois on s'enlise. Et un de ses photographes lui télégraphie en lui disant « Il se passe rien ici, je m'ennuie, je voudrais revenir. » Et Randolph Hearst de lui dire, on ne sait pas si la phrase est exacte, « Non, reste là, fournis-moi les images et je fournirai la guerre. » Donc à partir de là, on a dans les médias, dans les départements de sciences politiques et ailleurs, imaginé que la guerre américano-espagnole sur Cuba était en fait le produit de l'acharnement de Randolph Hearst. Or, il y a eu quand même des études sérieuses sur l'opinion publique, sur la façon dont pouvait influencer le président McKinley à l'époque, et qui ont conclu que c'était bien d'autres facteurs qui avaient amené le président McKinley à déclarer, en fait, c'est l'Espagne qui a déclaré la guerre aux États-Unis, mais à entrer en guerre pour, entre guillemets, libérer le peuple cubain. On a fait des évaluations, par exemple, sur le courrier que recevait le président McKinley. 90% des lettres qu'il recevait étaient en faveur du processus de paix et diplomatique avec l'Espagne. On a fait d'autres études, par exemple, sur le comportement des élites économiques et financières qui étaient massivement contre la guerre avec l'Espagne. Donc, on part de cette parole mythique pour construire quelque chose autour de cet effet CNN de la fin du 19e siècle. Je reviens au 20e siècle. En 1992-97, Boutros Ghali, qui est alors secrétaire général des Nations Unies, déclare à un média que CNN est le sixième membre permanent du Conseil de sécurité. C'est donc qu'il aurait autant d'influence lorsqu'on adopte une résolution ou lorsque les organisations internationales veulent intervenir que les États dûment constitués avec les pouvoirs qu'ils ont. Je pense que là encore, on était dans la formule parce que on s'est bien rendu compte que les médias dans certains conflits, et en particulier un des plus sanglants et qui ressemble en partie à celui de la Syrie, celui de la Bosnie, n'ont eu aucune influence sur le processus de décision. Et cela a été documenté par l'étude de Nick Gowen de la BBC, dont tu fais référence, Jean-Baptiste, et qui, lui-même, après le conflit en Bosnie, a interviewé une centaine de preneurs de décisions, à travers l'Europe pour leur demander si l'effet CNN existait. Et la conclusion qu'ils tirent, c'est que lorsque les preneurs de décision ou les politiciens ou les diplomates ne veulent pas intervenir, leur poids est bien plus important que tout autre acteur. Ils vont freiner toutes les décisions les poussant à intervenir. En fait, on remarque qu'effectivement, à partir, et la date est le 27 mai 1992, c'est-à-dire le premier massacre dans le grand marché de Sarajevo, pratiquement filmé sur CNN et qui a provoqué évidemment une commotion puisqu'on avait les cadavres là retransmis en direct. À partir de cette décision, jusqu'à l'été 1995, en fait, les preneurs de décision ou les acteurs prennent des postures d'intervention. Ils ont une rhétorique interventionniste, mais ils font monter la tension, ils se réunissent à Bruxelles, ils s'agitent à Paris ou à Washington, ils adoptent une énième résolution ou une déclaration du Conseil de sécurité, exactement comme dans le cas syrien, où on adopte soit des résolutions, soit des déclarations. Pour, en fin de compte, ne rien faire, on a adopté dans la crise bosniaque, une centaine de résolutions et de déclarations avant d'intervenir en 1995, à l'été 95. Mais pourquoi intervient-on à l'été 95? Parce que entre 92 et 95, les États ont armé, financé, formé les forces croates et bosniaques et leur ont permis, finalement, des victoires tactiques au fur et à mesure que le conflit se déroulait sur une partie de la Bosnie, mais aussi dans les Krajinas de l'est de Croatie. Et à un moment donné, il y a eu une offensive générale des Croates et des Bosniaques sur les Serbes à l'été 1995, et c'est à ce moment précis que l'OTAN vient donner un coup de pouce supplémentaire à cette intervention en frappant des cibles bien identifiées de l'armée serbe. Et même dans ce cas de figure, l'OTAN a bien averti les Croates et les Bosniaques de ne pas aller trop loin. Et finalement, les accords de Dayton négociés entre septembre et octobre 1995 reflètent très bien les positions des parties à la fin de ces bombardements, c'est-à-dire 51% du territoire pour les croato-bosniaques et 49% pour les Serbes. Ce qui était en fait le plan initial de 1992, ou à peu près. Donc, lorsqu'on étudie cette crise particulière de la Bosnie, on se rend compte que, quelles que soient les images diffusées, quels que soient les éditoriaux du New York Times, du Monde, quels que soient les appels de Glucksmann ou d'autres intellectuels de l'époque, il y avait même un parti politique à un moment donné en France qui s'est présenté sous la formation Sarajevo lors d'élections particulières, ça n'a pas eu d'influence concrète pour une intervention immédiate. Et je doute fort que dans le cas de la Syrie, ça puisse se reproduire. La Somalie maintenant, qui est un autre cas d'intervention. On dit que ce sont là encore, en 1992-93, que ce sont les images de la famine en Somalie qui ont poussé les Américains Et les Européens, la coalition multinationale de l'époque, à intervenir. Or, là encore, des études ont été menées où on a compilé les reportages télévisuels ou dans les journaux sur la situation, bien sûr, en Somalie, mais aussi au Sud-Soudan, là où il mourait encore plus de gens qu'en Somalie, où les combats étaient aussi acharnés. Et on s'est rendu compte qu'en fait, si la théorie devait aller avec la pratique, on aurait dû intervenir au Soudan. Mais on l'a fait en Somalie. Et on pense qu'essentiellement, la décision d'aller en Somalie était fondée sur une décision logistique. Il était bien plus facile d'intervenir sur les plages de Mogadiscio que d'essayer de rentrer dans le territoire somalien et de se rendre jusqu'au Sud-Soudan pour intervenir militairement ou de manière humanitaire. Alors, là aussi, c'est un exemple qui fait en sorte, en tout cas moi, qui me démontre que les médias, sur ces crises internationales, ont eu très peu d'influence. Les décideurs ayant le monopole de la décision et prenant la décision qui répond à leurs intérêts nationaux et en particulier souvent des intérêts économiques, politiques, géostratégiques. Ça, c'est pour l'aspect média de ce livre. Un autre aspect m'a interpellé dans le livre de Jean-Baptiste, et c'est son refus, d'une certaine façon, de croire à l'intervention altruiste. C'est-à-dire qu'aucun État ne va intervenir pour des raisons altruistes. Il y a toujours des intérêts géopolitiques, économiques, militaires à l'intervention. Tu me corrigeras évidemment, Jean-Baptiste, si je déforme ta pensée. Je crois quand même que une des rares interventions altruistes, c'est bien la Somalie. Parce qu'il n'y avait en Somalie strictement aucun intérêt géopolitique, économique ou autre à intervenir. Et que le président George Bush père, qui venait d'être battu aux élections par Clinton, n'avait d'une certaine façon pas à répondre d'un électorat, puisque la campagne électorale était terminée, et qui voulait certainement faire quelque chose de bien. Il aurait pu faire quelque chose de bien au Sud-Soudan, il a préféré le faire en Somalie, certainement après avoir considéré un certain nombre de paramètres. Les États-Unis sont intervenus avec une coalition multinationale, se sont retirés assez rapidement, comme vous le savez, et pas de façon très glorieuse, mais je pense que ça leur a coûté bien plus que ce que ça leur a apporté. Donc, c'est l'exemple de l'intervention altruiste. Je suis d'accord avec Jean-Baptiste, c'est pas le genre d'intervention qui va se reproduire très souvent dans le système international. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour certaines réflexions. Merci.
Merci beaucoup, Justin Coulon. Et on va passer la parole à René Provost.
Bien, tout d'abord, merci de l'invitation à venir à Stuart Greb, de venir dans une librairie plutôt qu'une salle surclimatisée dans une université. Donc, merci de l'invitation. Et puis, je veux aussi saluer la présence de ceux qui sont ici pour écouter et, avec un peu de chance aussi, participer pour votre intérêt à ce qui se passe au-delà de notre horizon immédiat. Et je pense que c'est une ouverture d'esprit qu'il faut saluer, partager, encourager. Donc, je pense que déjà, d'être ici, c'est beaucoup. Jean-Baptiste, tout à l'heure, a évoqué des mythes, et je ne peux pas m'empêcher de souligner un autre mythe que lui n'a pas signalé, qui est celui de la paternité canadienne, de la responsabilité de protéger, où ici, on est tous convaincus que c'est le Canada qui a créé ce concept, qui a par la suite été récupéré par les Nations Unies. Mais bon, c'est peut-être un petit peu plus complexe au niveau paternel qu'on pourrait le croire. Deuxième mythe, de nature un petit peu différente, celui-là. Toutes les guerres sont justes. Personne ne fait la guerre pour un motif injuste. Dans toutes les guerres, il y a toujours un narratif d'auto-justification de la guerre. Alors, la guerre est donc nécessairement toujours juste, que ce soit pour combattre le fléau communiste, sauver la veuve et l'orphelin, peu importe, on fait toujours des guerres pour des bonnes raisons. Et c'est important d'identifier cette idée-là quand on aborde la guerre au nom de l'humanité, parce que finalement, la guerre au nom de l'humanité, c'est juste une autre bonne raison de faire la guerre. Et dans cette optique-là, la question est un petit peu transformée en ce sens que les questions qu'on se pose par rapport à l'intervention humanitaire ou la guerre au nom de l'humanité, c'est un petit peu les mêmes questions qu'on peut se poser dans d'autres contextes, la légitime défense, etc. Donc, des questions qui sont difficiles toujours, avec peu de réponses claires. Et j'ai été particulièrement interpellé par la sortie de Jean-Baptiste tout à l'heure contre la cohérence. Et donc, Jean-Baptiste a passé trop de temps loin des facultés de droit et dans les sciences politiques parce qu'il y a toutes sortes de problèmes avec cette idée que « so what hein, », le problème c'est en Syrie, on peut faire quelque chose en Syrie, faisons quelque chose en Syrie, puis demain, advienne que pourra, on verra pour ce qui se passe ailleurs et puis on décidera s'il y a d'autres situations qui méritent notre intervention. Et les juristes sont là pour être non seulement les pompiers qu'on appelle quand les choses vont mal, mais aussi les gens qui tentent de plaider la cohérence, parce que la cohérence finit toujours par nous rattraper. Et même si on prétend qu'elle n'est pas là, quand on décide au cas par cas, la première question qui se pose alors, c'est « Oui, mais qui décide au cas par cas ?» Et donc, on s'en remet à l'identité du décideur. Et donc, ça peut être Hubert Védrine ou ses successeurs, plus ou moins heureusement dotés de raison et de vision, ou ça peut être une organisation internationale comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est lui-même une certaine orientation et une certaine identité. Donc, le cas par cas, en fait, ça nous repousse à qui décide. Et deuxièmement, le cas par cas, ça nous repousse aussi à poser, on décide au cas par cas, mais sur quelle base? C'est beau de dire, OK, on devrait intervenir en Syrie aujourd'hui. Ah oui, pourquoi? Ben, parce que les violations des droits fondamentaux, les exactions commises par le gouvernement syrien sont trop grandes et il n'y a pas de légitimité démocratique de ce gouvernement-là. Donc, toutes sortes d'arguments de principe, alors qu'on cherchait justement à s'éloigner des principes pour dire non, il faut décider au cas par cas. Donc, je suis très, très sceptique de cette idée de rejeter la cohérence, non seulement parce que la cohérence est un petit peu l'obsession des juristes qui ont horreur de l'incohérence, peut-être un extrême trop poussé, mais aussi parce qu'on est toujours pris avec la cohérence, parce que demain, d'autres acteurs vont récupérer la décision d'intervenir ou non en Syrie. Et la seule manière d'aller chercher ces autres acteurs pour empêcher, je sais pas, le Nigeria d'envahir un de ses voisins, ben, ça va être ces principes qu'on va être content d'avoir identifiés dans ce cas-ci pour pouvoir les ressortir demain dans cet autre cas. Et c'est comme ça que le droit fonctionne aussi. Ce qu'on fait aujourd'hui crée le droit de demain. Et donc, c'est la raison pour laquelle des puissances militaires qui ont parfaitement la capacité d'intervenir dans toutes sortes d'endroits, et puis on s'entend que les capacités sont limitées, donc ça c'est une autre dimension et qui ne vient pas enlever à l'idée que je vous soumets. On a conscience aussi qu'on crée des précédents et des précédents sur lesquels on n'aura pas le contrôle. Donc, l'auteur n'impose pas la portée de son texte et ça vaut aussi dans le processus de la création du droit. Donc, c'est pas parce que les États-Unis ont décidé d'intervenir en Irak en 2003 que eux ont le monopole de donner la signification de cette intervention-là, de dire pourquoi ils sont intervenus. D'autres vont la récupérer, l'ont déjà récupérée. Il faut avoir des intérêts qui sont immédiat et aussi à long terme. Et c'est ça que le droit vise à faire, c'est de capturer ces intérêts à long terme qui vont souvent ne pas être immédiatement pris en considération nécessairement par les acteurs, y compris les acteurs politiques. Et le droit, bon, va... En fait, c'est le produit d'un équilibrage du long terme et du court terme. Donc, une première idée, je suis content que trouver un sujet sur lequel Jean-Baptiste et moi, on n'est pas d'accord, parce que c'est toujours plus amusant quand on n'est pas d'accord. Quelques petites idées rapides, parce qu'on est quand même limité dans le temps, là, parce qu'il y a un autre événement, donc ce serait dommage de ne pas avoir une vraie discussion qui implique tout le monde. Il y a quand même un paradoxe pour parler de la responsabilité de protéger. Les Français aiment parler, bon, c'est droit ou devoir d'ingérence, hein, quand Bernard Kouchner, et comme si le simple droit n'était pas nécessairement suffisant et qu'on devait parler plutôt du devoir d'ingérence. Mais évidemment, quand on parlait du devoir d'ingérence, ça sous-entendait le droit d'ingérence. Or, ce qui est amusant, paradoxal et triste à la fois, de la responsabilité de protéger, c'est qu'elle véhicule une idée de la responsabilité de faire quelque chose tout en niant le droit de faire quelque chose. Donc, on dit au gouvernement, vous avez un devoir, mais vous n'avez pas le droit d'agir sur la base de ce devoir pour y donner suite. Et pourquoi est-ce qu'on a ce paradoxe-là? Le paradoxe est très, très bien capturé dans, justement, cette contribution canadienne à la responsabilité de protéger avec le nom de la commission qui vraiment a été le processus de gestation de ce qui est devenu la responsabilité de protéger. Et je m'en souviens jamais, donc il a fallu que je la cherche à page 177, si vous voulez la retrouver plus tard. Donc, c'est la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États. Donc, ICISS en anglais. Et c'est intéressant parce que quand on a créé cette commission pour penser l'intervention humanitaire après le Kosovo, on n'a pas pu juste appeler la commission sur l'intervention. Il a fallu aussi l'appeler la commission sur l'intervention et la souveraineté des États. Et ça nous en dit beaucoup. Sur qu'est-ce qui se cache derrière cette idée de responsabilité de protéger, c'est-à-dire que c'est une manière de réaffirmer aussi la centralité de la souveraineté de l'État à laquelle est attaché par définition chaque État. Parce que, bon, on va pas s'auto-nier. Donc, chaque État affirme le droit à sa propre existence et par le fait même la nécessité de la souveraineté et par le fait même la nécessité de la souveraineté de tous les autres États, y compris la Syrie, le Soudan et la Somalie. Enfin, la Somalie, c'est un petit peu plus compliqué quand même. La responsabilité de protéger, il y a un peu une illusion, là, qu'avec la responsabilité de protéger, on avait la solution... la recette qui permet de savoir quand est-ce qu'on intervient et quand est-ce qu'on n'intervient pas, donc de faire des choix qui sont logiques et des choix de principe. Dans les faits, c'est pas vraiment ça, même dans le rapport de cette commission soutenue par le gouvernement canadien. Et quand les Nations Unies se sont saisies de cette idée, là, évidemment, l'aspect protection de la souveraineté de l'État est apparu de façon beaucoup, beaucoup plus centrale, et il est devenu clair à quel point finalement il y avait essentiellement aucun gouvernement qui était d'accord avec un vrai principe de la guerre au nom de l'humanité. Et à cet égard-là, on pourra en reparler tout à l'heure, mais je pense que l'intervention au Kosovo est très intéressante et le fait qu'on est intervenu au Kosovo sans passer par les Nations Unies. Et ça, pour moi, ça en dit beaucoup parce que on a évité les Nations Unies alors qu'il n'y avait pas de raison vraiment de ne pas se recourir aux Nations Unies, au moins à certains égards. Mais je ne veux pas m'étendre pour laisser du temps pour la discussion. Peut-être deux très courtes remarques, puis je vais me taire. La guerre au nom de l'humanité. Donc, juste deux mots à propos de ces deux idées, la guerre puis l'humanité. Commençons par l'humanité. La protection de l'humanité, c'est un projet polycentrique, très, très complexe. Et je pense que l'intervention humanitaire, droit et devoir d'ingérence, tout ça était alimenté par une vision très réductrice de l'apport d'une intervention militaire dans un contexte donné. On avait vraiment l'illusion que c'était l'épée qui allait trancher le nœud gordien et puis mettre fin au génocide ou au conflit, etc. Et les expériences au cours des années 90, où on s'est ouvert quand même plus à des interventions comme ça, ont fait un peu dégriser à la fois les gouvernements et les penseurs sur cette question-là. Et on s'est rendu compte que finalement, la solution militaire en était rarement une. Et ce qui n'est pas pour dire que c'est jamais une solution à quoi que ce soit, mais que la guerre au nom de l'humanité et la protection de l'humanité évoquent un spectrum de situations où il est difficile de modéliser de façon simple dans quel type de circonstances est-ce qu'on va pouvoir intervenir. Et c'est là où je pense qu'il y a ce problème du cas par cas. Mais on est pris avec l'obligation d'agir sur la base de principes. Donc, on n'y échappe pas, mais c'est la complexité et la difficulté qui fait qu'on n'a pas aujourd'hui un code qui peut nous guider dans nos décisions. Un mot sur la guerre. C'est quoi la guerre ici? Hein, on a l'idée, les F-18 sur la Libye, le Canada, la protection de l'humanité. Bon, ça, c'est la guerre, OK. Déjà, la guerre version libyenne, c'était une certaine guerre. Hein? C'était la guerre à 30 000 pieds. Et puis, bon, on était moins intéressés d'avoir les boots on the ground. Hein? Ça, c'est en anglais, ils disent toujours ça. Ça, c'est une autre version de la guerre qui est plus coûteuse souvent au niveau humain. Mais c'est dans cet autre spectrum de qu'est-ce que la guerre, on peut pousser aussi beaucoup plus loin l'idée de guerre. Et si la Libye était une espèce de guerre mitoyenne, il y a d'autres versions de l'intervention au nom de l'humanité avec la force armée qui, elle, n'est pas dans le cadre d'un conflit armé. Entre autres, on peut, avec les développements technologiques, et là on rejoint un autre intérêt que Jean-Baptiste et moi on partage. Avec les drones au Liban, il y a des drones au Liban aussi, mais ça c'est l'israélien, au Yémen, pardon, et en Somalie, et au Pakistan et ailleurs aussi, on a la possibilité d'une guerre dans une version beaucoup, beaucoup plus ciblée. Et là, ça ouvre d'autres possibilités et d'autres problèmes pour cette idée de la guerre au nom de l'humanité. Parce que au début de l'intervention américaine en Irak, ils essayaient de tuer Saddam Hussein. Ils ont essayé très fort, ils ont tué plein de monde, mais pas Saddam Hussein, malheureusement. Et parce qu'on avait l'idée que si on pouvait l'atteindre lui, ça serait une solution déjà considérable à la crise. Et on peut imaginer quand il y a, par exemple, dans le contexte libyen, où on dit, si on avait un drone puis on faisait sauter Kadhafi, est-ce que là, il n'y aurait pas un moyen simple de essentiellement transformer la dynamique interne et là, de sans faire la guerre au sens traditionnel, mais en employant quand même la force armée d'intervenir au nom de l'humanité. Et là, quand on pense à ça, c'est d'autres perspectives, parce que c'est beaucoup plus facile d'intervenir dans ce contexte-là. Parce que ça coûte pas très cher, il n'y a pas de danger de perte de soldats, etc. Et il y a cette idée aussi que si c'est juste un robot ou une machine télécommandée qui est sur le territoire d'un autre État, c'est moins problématique face à la souveraineté de l'autre État. Alors que s'il y a un pilote, ben là, ça, c'est plus un problème. Je pense que juridiquement, c'est pas très justifiable, mais j'ai quand même la conviction que ça participe à la facilité avec laquelle on envoie des drones dans différents pays. Donc, je vous soumets cette problématique-là aussi de ben, la guerre au nom de l'humanité, ça peut être aussi la micro-guerre au nom de l'humanité. Et est-ce que le raisonnement qu'on a, très, très intéressant, dans le livre de Jean-Baptiste, nous aide aussi à réfléchir à ça? Merci.
Merci beaucoup, René Provost. Alors, effectivement, à moins que Jean-Baptiste veuille réagir tout de suite à certains commentaires ou certaines questions.
Je crois que je peux arriver à le faire en une minute.
Très bien, vas-y.
Sur l'effet UNN, Jocelyn, je pense qu'au fond, on est d'accord. C'est-à-dire que la thèse de l'effet faible ne dit pas que l'effet CNN, c'est l'influence de la politique étrangère, l'influence des médias sur la politique étrangère. La thèse de l'effet faible ne dit pas que les médias peuvent être cause, mais simplement catalyseur. Et je pense que tu as conclu ton intervention sur ce point en disant, je te cite, ça démontre que les médias ont eu très peu d'influence. Ce que je dis, c'est que très peu d'influence, c'est pas d'influence, je pense que tu le reconnais aussi. Très peu d'influence, donc je pense qu'on est d'accord. Donc un effet qui n'est pas nul, mais qui est très faible. Ensuite, sur la Somalie, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'intérêt matériel, c'est-à-dire dans le sens où les réalistes définissent classiquement l'intérêt, mais surtout les néo-réalistes, en fait, c'est-à-dire dans un sens très matériel. Mais il me semble qu'il y avait un intérêt identitaire, parce qu'on était là à la fin de la guerre froide, et dans l'intervention américaine en Somalie, il y a aussi une volonté de redéfinir son rôle dans un monde post-guerre froide, qu'on retrouve aussi dans l'intervention de l'OTAN au Kosovo 99. Je pense qu'une des dimensions du problème, c'était pour l'OTAN de se retrouver une raison d'être dans un monde post-guerre froide. Et puis, sur la question de la cohérence, René, je ne pense pas que décider au cas par cas, ce soit s'éloigner des principes. Puisque justement ces principes, c'est la question des critères. Quand tu dis qui décide au cas par cas, c'est la question de l'autorité légitime, et là on revient sur les critères classiques de la guerre juste. Quand tu demandes sur quelle base, c'est la question de la cause juste. Et ça, c'est effectivement des principes. Autrement dit, décider au cas par cas, c'est pas s'éloigner des principes, parce que appliquer les mêmes principes à des circonstances différentes, ça donne des résultats différents. Et je te pose à contrario la question, c'est-à-dire, s'il faut être absolument cohérent, est-ce que tu interviendrais aujourd'hui en Syrie, comme on est intervenu hier en Libye?
Oui, mais... Alors, c'est pas du cas par cas. Je veux dire, le cas par cas, c'est... On décide chaque cas sur la base du cas lui-même, qui est un peu un cas en soi. Parce que c'est ça que... C'est Bernard Lévy qui disait ça, donc il disait, ouais, mais... Si on veut intervenir en Syrie, est-ce qu'on doit se poser la question d'autres contextes par rapport auxquels on va intervenir ou non? Si on intervient en Syrie, est-ce qu'on devrait aussi intervenir en Corée du Nord? Et si tu dis oui, alors c'est plus du cas par cas. C'est sûr que les principes sont appliqués à des contextes et que chaque contexte est différent. Ouais, donc ça, il n'y a pas de désaccord là-dessus.
Ouais, ouais.
Mais ça ne nous libère pas de se demander... Pour l'intervention en Libye, ben, il faut aussi penser à la Syrie, penser au Keren du nord de la Birmanie, etc., etc.
Oui, il faut y penser, mais ça ne doit pas nous lier. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on est intervenu en Libye, parce que le contexte le permettait, parce que l'effet positif, les chances raisonnables de succès, qui est un principe auquel tout le monde croit, l'estimation qu'on fait au moment d'entrer en guerre, l'application du principe chance raisonnable de succès au cas libyen était positif, l'application du même principe au cas syrien, il est négatif, donc traitement différentiel, mais qui me semble justifié par les circonstances qui divergent.
Okay. Donc sur la base d'un principe
qui est... Sur la base d'un principe qui est tellement minimal que tout le monde le partage, tellement consensuel.
Donc malheureusement, on n'est pas très en désaccord.
Alors on va ouvrir le micro pour le public, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez rebondir sur... certaines remarques. Bien sûr, allez-y, je vous demanderai par contre de vous adresser au micro pour l'enregistrement.
Ok. Allô ? Bon, ça marche. Okay. J'ai pas l'habitude de parler au micro. Donc, très candidement, okay, quand M. Coulon, vous parliez de l'effet CNN, on n'a pas parlé de cette crise-là, mais j'étais à Dubaï quand l'Irak envahit le Koweït. Et à contrario, je pense qu'effectivement, si l'effet CNN a un impact, c'est qu'il il tend à... Attendez, où est-ce que je l'ai écrit ? Il tend à vraiment justifier l'intervention armée en soi. Okay, donc, j'étais à Dubaï, j'étais vraiment tout près des événements. Je voyais exactement ce qui se passait. Puis j'étais en diplomatie française aussi. Donc, aux premières loges, pour savoir exactement qu'est-ce qui allait se passer, quand même, vu ce qui s'était déjà passé il y a quelques mois et comment ça s'amenait. Et là, l'effet CNN, il a énormément contribué à modeler l'opinion publique et à justifier l'emploi de la force un petit peu plus tard, donc en 91.
Donc là, vous parlez du conflit de 90-91, lorsque l'Irak envahit le Koweït.
Oui, je rebondis, hein, parce que vous parliez de l'effet CNN qui pourrait
qui n'a
avoir
pas
un impact sur les décisions. Effectivement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais de l'autre bord, oui, il y en a énormément.
Vous voulez dire de l'autre côté, chez les Irakiens qui envahissent le Koweït
ou... Non, je m'exprime mal. Ce que je veux dire, c'est que les médias ont un profond impact sur l'opinion publique.
Bien sûr.
Voilà, c'est comme ça, en fait.
Mais ce qu'on constate, par exemple, prenez l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Cette crise
oui,
a été médiatisée comme rarement des crises ont été médiatisées. Les réunions du Conseil de sécurité étaient diffusées en direct sur toutes les chaînes dans le monde entier, où on voyait Dominique de Villepin, les ministres des Affaires étrangères, s'engueuler autour de la table. Nous avons été abreuvés d'images, bien sûr, sur l'Irak et tout. Et pourtant, je crois, sous toute réserve, qu'il n'y a que deux pays où les opinions publiques étaient en faveur de cette guerre, les États-Unis et le Danemark. Ne me demandez pas pourquoi le Danemark, mais en tout cas les États-Unis. Et aux États-Unis, on avait la fausse impression que les médias étaient en majorité pour l'invasion, ce qui est faux. Il y a encore eu des études sur les éditoriaux des grands journaux, sur les chaînes de télévision, et on s'est rendu compte qu'une majorité, une petite majorité, était contre l'invasion. Et même les principaux quotidiens du Texas, c'est-à-dire l'État où George Bush avait été gouverneur. Donc, malgré le déversement médiatique plutôt favorable à la guerre, les opinions publiques étaient contre. Donc, est-ce que je me trompe quelque part dans la façon d'interpréter la diffusion de ces informations-là? Je pense que les gens prennent position souvent malgré les médias.
Je ne sais pas si... il faut rester sur cette question des médias, puisque la discussion est partie là-dessus. En fait, moi, j'ai l'impression qu'en fait, en même temps, quand on parle des médias, c'est comme si c'était quelque chose d'un bloc unique. Vous venez de parler précisément des images de Dominique de Villepin, les images en direct du Conseil de sécurité, etc. C'est quand même à travers eux que s'orchestre, on va dire, qu'il y a cette mise en scène aussi. Donc ils participent de ce processus.
Ouais.
Donc ça, c'est un aspect. Mais cet aspect-là est évidemment très différent du quotidien local du Texas qui va être contre la guerre parce que l'Irak, c'est trop loin et puis qu'on n'a pas envie d'envoyer nos enfants là-bas ou d'autres raisons. Donc je pense que c'est très compliqué, en fait, aussi, d'avoir des critères pour juger de ce qu'on appelle l'influence des médias.
Mmh.
Et en ce qui concerne le conflit actuel, puisqu'on a parlé de Syrie... Si on regarde effectivement le Qatar, qui semble être extrêmement impliqué militairement. Une chaîne comme Al Jazeera, vous savez qu'il y a eu un certain nombre d'accusations, puisque des gens du bureau d'Al Jazeera au Liban ont démissionné parce qu'ils considéraient que la couverture médiatique d'Al Jazeera était même mensongère, on va dire. C'est ce qui est, en tout cas, les gens qui ont démissionné du bureau de Beyrouth, ces deux, trois personnes, c'est ce qu'elles ont dit. Donc, c'est extrêmement compliqué, en même temps, de dire le rôle des médias. C'est-à-dire que les médias eux-mêmes, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais ils participent inévitablement, parce qu'à travers eux s'orchestrent ces conflits, se maintient aussi l'intérêt pour le conflit, etc. Donc,
je pense que j'ai rien d'autre à rajouter, là. Je pense que vous avez exprimé.
Présentez-vous au micro, et puis...
Alors, Aude Bordini. Oui. On a un gros point de désaccord, donc peut-être qu'on va pouvoir s'amuser pour de vrai, parce que je suis une incorrigible et indécrottable kantienne déontologiste. Et je comprends très bien ton principe de réalisme, mais du coup, je me demande s'il y a véritablement un mythe à déconstruire dans la position que tu défends, c'est le mythe d'une guerre au nom de l'humanité, au sens où il n'y a jamais de guerre au nom de l'humanité, manifestement. Puisqu'il n'y a que des principes, il n'y a pas de guerre altruiste, comme vous aviez, M. Coulon, l'air d'accepter peut-être qu'il y en ait, mais à ce moment-là, si il faut accepter ce principe extrêmement cynique, pourquoi est-ce que les gouvernements se donnent la peine de faire comme si ou de monter cette mystification selon laquelle on interviendrait non pas pour le pétrole, non pas pour le pouvoir, non pas pour un certain nombre d'intérêts géostratégiques, mais en se donnant cet alibi de la guerre altruiste ou pour défendre les populations. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui, en un sens très naïf, j'allais dire mérite, c'est pas de l'irritation, mais me surprend quand vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de guerre non juste et que toutes les guerres ont leur justification. Toutes les guerres ont certainement leur explication. La justification, c'est pas exactement la même chose. Donc pour un juriste, je suis surprise en fait par la position que l'un et l'autre, j'ai l'impression que vous avez tendance à défendre. Il n'y a pas pour vous de guerre qui soit en tant que telle véritablement injuste quand elles sont conduites contre des civils ou pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du pays dans lequel on s'installe et dans lequel on s'arroge le droit d'ingérence.
Ouais, alors d'abord je suis complètement d'accord avec ce que tu disais sur la notion d'humanité. C'est Carl Schmitt qui disait ça, il a bien raison. L'humanité, c'est un concept qu'un État utilise. Il n'y a pas de guerre au nom de l'humanité dans le sens où en réalité il n'y a pas de guerre humanitaire si on comprend au nom de l'humanité dans ce sens-là, dans le sens où c'est jamais l'humanité qui intervient. C'est jamais l'humanité qui intervient, c'est toujours un État qui intervient en manipulant un concept. Donc oui, c'est très cynique. Malgré tout, une manière de résoudre le paradoxe que tu as soulevé, c'est peut-être de distinguer la manière dont les guerres sont justifiées et la question des guerres justes. Autrement dit, oui, les guerres, je suis d'accord, René, sont toujours justifiées. Est-ce qu'elles sont pour autant toujours justes? Autrement dit, c'est pas parce que Hitler justifie de telle manière telle invasion qu'on peut dire que telle invasion est en soi juste, avec toutes les précautions que quelqu'un qui n'est pas inséiste comme moi peut trouver à ce « en soi ». Mais malgré tout, là, il suffit de dire que une guerre justifiée le mieux du monde, si au moment où elle se fait, elle viole tous les principes du DIA, du droit international humanitaire, on ne va pas l'appeler pour autant guerre juste. Et là, il y a une dimension cumulative des différents principes. Autrement dit, il ne suffit pas seulement d'avoir une cause juste d'intervenir pour être une guerre juste. Il faut aussi, au moment de l'intervention, faire attention à la proportionnalité. Il faut aussi qu'il y ait un effet positif, etc. Mais il y a toujours ce problème du critère de la bonne intention qui, moi, me pose problème. Et donc je pense qu'on peut résoudre le paradoxe en distinguant le fait que, oui, les guerres sont toujours justifiées, mais ça ne fait pas d'elles forcément des guerres justes, parce qu'elles doivent toujours être soumises à une évaluation non seulement avant, mais aussi pendant et après.
Oui, madame.
Je voudrais juste que ce que j'ai dit, c'est que les guerres sont toujours présentées comme justes par leur instigateur. Okay? Donc il y a toujours un discours justificateur. Et la guerre au nom de l'humanité, c'est un discours justificateur parmi d'autres discours justificateurs. Maintenant, ce n'est pas nécessaire d'être d'accord avec la justification présentée par Hitler pour envahir la Pologne. Donc, on n'est pas nécessairement d'accord, mais lui avait une justification et l'Allemagne se battait justement selon l'idéologie du gouvernement en place. Et moi, ce que je vous dis, c'est vous ne trouverez pas de gouvernement ou de groupe qui n'ont pas l'impression de se battre pour un motif juste. Ça fait partie du processus de décider de prendre les armes que de s'auto-justifier comme ça. Et donc, c'est juste dans cette marge, dans cette mesure-là. Je dirais aussi que c'est pas un vaste exercice de tromperie, ça. C'est l'idée de la protection de l'humanité, les droits de la personne aussi, etc. Parce que c'est pas nécessairement incompatible non plus avec avec les intérêts des États, même si on prend une approche purement réaliste. Donc, à bien des égards, il y a une convergence de la protection de l'humanité, même en Somalie, je suis tout à fait d'accord, et l'action au nom de cette humanité. Il va y avoir d'autres aspects aussi. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est trouver une guerre qui n'est faite qu'au nom de l'humanité. Ça, ce serait autre chose, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter du revers de la main tout ce discours du caractère humanitaire de certaines interventions.
Préciser une chose. Vous avez dit, j'ai dit qu'il existait des guerres altruistes ou je me posais la question sur les guerres altruistes. En fait, j'ai posé la question sur les interventions altruistes. Pour moi, une intervention, c'est pas la même chose qu'une guerre. On peut intervenir sans utiliser la force, sans utiliser la violence, sans imposer quoi que ce soit. Il y a toujours un aspect un peu coercitif dans une intervention. Mais dans l'altruisme, c'est finalement dans le processus de décision. Les États-Unis vont en Somalie, pas parce qu'il y a du pétrole, pas parce que les Russes sont à Djibouti ou au Kenya, pas pour des raisons géopolitiques, économiques ou autres. Ils vont en Somalie parce qu'il y a une crise humanitaire et qu'ils estiment qu'ils peuvent faire partie de la solution avec 40 autres pays. C'est tout. C'est le cadre.
Je crois que dans l'histoire de l'humanité, après tant des années, on n'a jamais résolu un problème avec la guerre. Et toute cette chose, on devait les comprendre parce que c'est une tragédie humaine qui apporte des graves problèmes humanitaires. Premièrement, en histoire des Grecs, par exemple, entre Athènes et Sparte, on a eu toujours des guerres épouvantables qui, après la période de Périclès de paix, ça a créé une culture extraordinaire qui a créé avec Phidias comme Rodin, des grandes sculptures qui sont restées dans la civilisation mondiale. Comme ça, on n'a pas résolu jamais le problème avec la guerre. La paix apporte, Périclès qui a apporté 40 ans de paix, la culture, la paix, la stabilité mondiale, économique et toutes les choses. Deuxièmement, je crois que c'est une hypocrisie de la part de nous de résoudre une tuerie par une autre tuerie. Je ne comprends pas comment, dans ce pays, le dictateur tue. Mais on n'a pas le droit que les autres qui ont des pensées humanitaires de tuer en plus. Parce que comme ça, on crée une tragédie plus grave. Et qui, après, aide humanitaire. Tu l'as tué, tu l'as donné des drones ou je ne sais pas, des bombes, des milliards de bombes, et après tu viens avec un kilo de riz. Ce n'est pas une excuse humanitaire que je lui apportais quelque nourriture et après que je l'ai tué, quelques personnes. Deuxièmement, comme je ne sais pas que vous êtes croyant ou non, le problème qui se pose, c'est parce que ce sont des guerres religieuses qui sont un peu masquées de politique, qui c'est plus de tragédie parce qu'en face de Dieu, c'est un seul Dieu qui sont des croyants, les religieux, et que cette intervention en nom de Dieu, c'est un grave péché qui n'a pas aucune...
Excusez-moi, madame, étant donné qu'il va falloir terminer bientôt, si vous pouvez peut-être résumer...
C'est comme ça que je crois que c'est mieux. Par exemple, un commando. Tu as besoin de prendre une Sadat Hussein. Fais un commando, prendre cette Hussein et mettre dehors, non?
Très
tu
bien.
Tu n'as pas besoin de tuer de toute l'Irak. De résoudre leur problème.
Très bien. Excuse-moi, donc, je ne sais pas si vous voulez réagir rapidement là-dessus, oui?
Je peux le faire assez rapidement. Sur le premier point, on s'entend que la paix est préférable à la guerre. Sur le second, résoudre une tuerie par une autre tuerie, c'est toute l'ambivalence morale, et vous la mettez bien en évidence. Oui, c'est très moralement ambivalent, mais mettez-vous dans la situation suivante. Le Rwanda, 1994. 800 000 victimes en 100 jours. Vous en êtes à 50 jours. Vous avez la moitié déjà. On sait maintenant que, comme on n'est pas intervenu à ce moment-là, ça a continué jusqu'à 800 000 victimes. Si on était intervenu, pensez-vous vraiment, comme vous dites, que ça aurait créé une tragédie plus grande encore? Plus grande encore que 800 000 victimes? Donc la question qui se pose pour nous, c'est d'intervenir quand on pense que l'intervention, y compris en tuant, fera au total... sera au total bénéfique, c'est-à-dire sauvera plus de personnes qu'elle n'en tuera et qu'elle n'en laissera mourir. Et sur le troisième point, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais au XIXe siècle, on distinguait, on faisait l'effort de distinguer clairement, mais c'était en réalité plus ambigu, l'intervention humanitaire qui se ferait soi-disant au nom de l'humanité et l'intervention religieuse pour protéger seulement quelques communautés qui étaient chrétiennes à l'époque de ce qu'on appelait la question d'Orient, c'est-à-dire l'intervention des puissances européennes dans l'Empire ottoman.
Très bien, à titre de... Présidente de séance, je vais me permettre quand même de poser quelques questions en vrac. C'est un peu adressé à tout le monde. Alors, c'est simplement une série de réflexions suscitées par certains de vos commentaires. Alors, je crois que la première remarque, en fait, s'adresse plutôt à Jocelyn Coulon, ensuite, dans la foulée de certaines questions, d'ailleurs, qui ont été portées sur les faits CNN. Et je me demandais simplement s'il n'y a pas lieu quand même de distinguer deux angles d'analyse pour mesurer si oui ou non les faits CNN jouent sur les décideurs et si les faits CNN jouent sur l'opinion publique. Et ensuite, mesurer l'impact politique à court, moyen, long terme de l'effet des médias sur deux auditoires, en fait, deux sujets de recherche qui sont quand même distincts parce qu'ils n'occupent pas tout à fait les mêmes fonctions. Par exemple, quand on prend l'affaire Somalie, il y a eu des études qui ont porté sur l'effet Mogadiscio. Et je vous rappellerai en quoi consistait l'effet Mogadiscio. L'effet Mogadiscio consistait à ces scènes d'une violence quand même assez inouïe. C'était quand même tragique. C'était le cadavre dénudé de soldats américains qui ont été traînés dans la rue et qui finalement, une fois diffusé, donc sur les chaînes médiatiques américaines, a peut-être précipiter le retrait des troupes américaines de la Somalie. Ce qui aussi conforterait l'idée que l'intervention altruiste américaine en Somalie a été quand même de courte durée à partir du moment où l'opinion publique s'est insurgée face justement à ces images de Mogadiscio. Alors, l'effet sur l'opinion publique des médias et des discours ou même des déclarations purement normatives, purement idéalistes qui sont rapportées à travers les médias mais qui en fait n'impactent pas comme telles les décisions politiques. Il se pourrait aussi que d'un point de vue sociologique ou philosophique ou je ne sais trop comment le décrire, mais que dans une dimension un peu plus complexe, spéculative, il est vrai, ce sont ces effets médiatiques, ces discours, ces déclarations normatives qui construisent petit à petit, et j'emploie le terme qui construisent dans une perspective constructiviste, l'horizon des aspirations normatives ou des justifications publiques à partir desquelles les futures décisions politiques doivent être arrimées pour qu'effectivement ces décisions politiques puisse être considérée légitime. Par exemple, la prohibition de la guerre préventive à la fin du 19e siècle, qui donne lieu quand même à un ordre, un droit international onusien quand même distinct, qui prohibe, qui interdit la guerre préventive. On a vu comment, par exemple, les Américains, lorsqu'ils sont intervenus en Irak, au nom d'une certaine... Ils ont tenté de réhabiliter la doctrine de la guerre préventive parce que c'était une sorte de légitime défense face à la menace des armes de destruction massive, etc. Mais il a fallu faire cet effort-là pour essayer de convaincre, encore une fois, une opinion publique peu favorable, comme vous l'avez effectivement relevé, à cette intervention-là. Ça, c'est une première question pour vous.
C'est un vaste programme, là, hein, pour ce soir. Je pense que je ne pourrais pas m'engager là-dessus ce soir, mais juste sur l'effet Mogadiscio, parce que effectivement, selon la mythologie construite après la catastrophe d'octobre 1993, où effectivement 18 soldats américains sont tués dans une opération militaire contre les milices du général Aidid. En fait, on a documenté le discours des politiciens et des hauts fonctionnaires américains pendant tout l'été 93 et en septembre. Et les auditions devant les commissions du Sénat ou de la Chambre des représentants, des représentants, devant ces commissions, les fonctionnaires disaient « Nous, on est dans un plan de sortie de la Somalie et on veut se dégager assez rapidement de la Somalie. » Alors, est-ce que c'était en octobre, est-ce que c'était en novembre ou en mars? Il n'y avait pas de date. Mais déjà, le président Clinton avait à l'esprit qu'il fallait quitter la Somalie parce que, pour eux, le gros du travail avait été fait. Et le meurtre ou la mort des 18 soldats a été un événement accélérateur. Mais est-ce que ce sont les images qui ont accéléré la prise de décision ou elle avait déjà été prise, cette décision, à l'été 93? Et là, effectivement, arrive l'événement et qui est pour Clinton pratiquement la justification. Et on se rend compte dans la séquence du départ des troupes américaines qu'en fait, elles vont partir en avril 94, pardon, et certains résidus américains vont rester là jusqu'en 95, c'est-à-dire la fin de la mission officielle. Donc, tous les soldats américains ne sont pas partis en même temps.
Une question pour René Provost. Alors, en fait, deux, mais très courtes, un peu plus courtes. Alors, la première, c'était juste pour rebondir sur vos réflexions sur R2P. Et je n'ai pas trop compris dans quel sens vous vouliez... Est-ce que c'était un reproche? Est-ce que c'est un constat? Enfin, l'idée, c'est que R2P, donc cette doctrine, la responsabilité de protéger, effectivement s'inscrit dans une perspective étatiste. Et c'était peut-être pas nécessairement... enfin, là, c'est là où j'ai peut-être pas tout à fait saisi votre propos. Est-ce que c'est quelque chose de bien, quelque chose de mal? Enfin, peu importe, l'idée, c'est que l'intérêt, justement, de R2P consiste à pouvoir, d'une certaine façon, tabler sur un consensus au sein de la communauté internationale qui, comme chacun sait, tient à jouir de sa souveraineté, mais l'ajout normatif ou philosophique, si vous voulez, à la doctrine de la souveraineté qui est quand même défendue à travers R2P, c'est de conditionner le principe de souveraineté, la reconnaissance internationale, le critère externe du principe de souveraineté doit être mesuré au critère interne de la souveraineté qui est en fait le critère de la légitimité domestique. Et donc, à partir du moment où un État, et ça, c'est vraiment la thèse libérale pro-interventionniste qui mise beaucoup sur ce discours-là, et on en voit quand même l'introduction dans la doctrine R2P, l'idée consiste à dire, oui, tous les États ont le droit de jouir de leur souveraineté, mais à la condition qu'ils respectent les critères internes de leur souveraineté, c'est-à-dire à la condition qu'ils respectent un minimum de standards de justice à l'interne. Donc, on ne peut pas massacrer son propre peuple, on ne doit pas commettre de génocide à l'endroit de notre propre population. C'est un critère interne de souveraineté qui mérite par la suite la reconnaissance externe de la souveraineté. Alors ça, c'était ma première question. Je ne voyais pas quelle serait, jusqu'à un certain point, quelle autre alternative. Seriez-vous plus cosmopolite encore? Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faudrait tout simplement... Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on devrait remettre davantage en cause le principe de souveraineté en droit international? D'une certaine façon, d'un point de vue pluraliste, je doute qu'on puisse aller tellement plus loin que le R2P à l'heure actuelle. Et la deuxième question par rapport à l'utilisation des drones, c'est juste une question, enfin, c'est une question que je ne connais absolument pas, mais il m'apparaît quand même assez frappant que dans certaines études qui ont été conduites dans le domaine des nouvelles guerres, la sociologie des nouvelles guerres, on parle de cette nouvelle logique du transfert des risques qui consiste essentiellement au sein des pays occidentaux qui ont les moyens effectivement de se doter de technologies militaires, high-tech, etc., les drones, on a les moyens, nous, les Occidentaux, par exemple, d'envoyer des tirs aériens à 3 000 pieds d'altitude, etc. Ce qui a pour effet de protéger nos soldats et de transférer les risques sur les populations non combattantes, les populations civiles, qui seront considérées comme les dommages collatéraux de nos tirs ciblés aériens ratés, ou éventuellement, peut-être, je ne sais pas trop, des dommages collatéraux que la nouvelle technologie des drones pourrait aussi provoquer. Alors, je me demande simplement, on parle souvent de ces nouvelles technologies militaires comme pouvant amener, d'une certaine façon, un certain progrès dans la mesure où on aurait des courtes guerres qui pourraient provoquer moins de dommages collatéraux, mais il n'en demeure pas moins qu'il y risque d'avoir une logique de transfert des risques qui est quand même aussi une perversion morale d'un certain point de vue.
Par rapport à la responsabilité de protéger, d'abord pour commencer, ce qui est intéressant pour moi là-dedans, c'est si on regarde le rapport de cette commission, c'est un très beau programme. Hein? Ça a du bon sens, et puis c'est une réinterprétation de la souveraineté, comme vous dites, conditionnée au respect de certains principes fondamentaux, et en cas de non-respect, ben, on vient retrancher le droit de la protection de la souveraineté, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas passé. Et c'est ça qui est intéressant. Et quand on pose la question de la guerre au nom de l'humanité, on se pose aussi la question pourquoi ça n'a pas passé. Et la réponse à cette question-là est extrêmement difficile d'identifier précisément les éléments de ce conditionnement au respect de certains principes d'humanité qui sont considérés comme incompatibles ou comme inacceptables par les gouvernements. Donc, c'est plutôt ça que je suggérais, parce que ce serait une chose si on pouvait tous s'entendre ici sur le code des principes qui nous permettrait de déterminer quand est-ce qu'on intervient et quand est-ce qu'on n'intervient pas. Dans les faits, je pense que c'est très difficile d'en arriver à un accord parce que, à d'autres égards, la souveraineté des États, c'est une bonne chose. Et on n'a pas nécessairement pour souhaiter que parfois il y ait une intervention au nom de l'humanité, on ne doit pas nécessairement être anarchiste essentiellement et de dire ben il faut se débarrasser des États parce que ça c'est la source de l'oppression et que la solution pour la liberté de tous, c'est essentiellement ça passe par le rejet pur et simple de la souveraineté. Donc pour moi, la responsabilité de protéger et l'analyse comme celle de Jean-Baptiste, c'est intéressant parce qu'on va essayer de creuser au-delà de ce constat de l'opposition des intérêts sans qu'il y ait de réponse claire. Au niveau des drones et tout ça, je ne pense pas qu'on va transférer les risques. Les risques sont déjà tous de l'autre côté.
D'accord.
Donc,
ouais,
il y a pas de transfert là. C'est déjà les civils et la guerre est déjà complètement asymétrique. Donc, je ne pense pas que c'est à cet égard-là qu'il y a une transformation. Vous parliez de cette image des guerres plus courtes. Et ça faisait penser à ces soldats en 1914 qui partaient au combat en chantant avec des fleurs dans leurs fusils, pensant qu'avec les moyens modernes, aucun conflit ne pourrait durer plus de quelques mois. Et bon, on a vu comment ça s'est passé. Puis je pense que c'est sérieusement une vision que vous embrasseriez. Mais je pense que ça tout ce que ça fait, c'est ça délocalise les conflits armés. Et donc, ça, c'est un impact réel. Et c'est intéressant de noter que l'administration américaine, aujourd'hui, justifie ses frappes au Yémen par le lien qui unit Al-Qaïda dans la péninsule arabique, je ne suis pas trop sûr de la traduction française, et Al-Qaïda en Afghanistan, pour faire en sorte que comme si la frappe au Yémen était une espèce de section du conflit en Afghanistan. Et ça, c'est intéressant parce que ça alimente une conception plus globale de la guerre contre le terrorisme comme un véritable conflit armé. Et ça, c'est relié à cette utilisation des drones parce que vraiment, on peut porter la guerre partout.
Alors, sur ce, je crois qu'on va terminer parce que malheureusement le temps avance beaucoup. Il y a aussi le lancement d'un autre livre qu'on voudrait souligner. Alors sur ce, je voudrais remercier Justin Coulon, René Provost et Jean-Baptiste Jean-Jeanne Villemaire de s'être prêté à cette table ronde. Et merci beaucoup à vous d'avoir assisté.